réponse avec notre invité. Il est 7h12, 2020, donc année de crise, mais marque-t-elle aussi la fin du populisme ? Donald Trump, qui a perdu, l'Union européenne qui s'est montrée finalement très soudée dans la lutte contre le corona, surtout avec la campagne de vaccination, le Brexit qui débouche sur un compromis. Bonjour Arnaud Zaccari.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du CNCD 11-11-11, mais également l'auteur du livre « Mondialisation et national populisme, la nouvelle grande transformation ». Alors est-ce qu'on peut dire que justement la crise de ce coronavirus a laissé le populisme, le national-populisme, comme vous l'appelez, sans voix? Il n'a pas surfé sur cette crise alors qu'il y a tous les éléments de, justement, une crise anxiogène qui peut profiter au national-populisme.
Oui, ben je pense que la réponse est nuancée. Donc il y a des facteurs qui ont été défavorables et d'autres qui sont plus favorables. Les facteurs défavorables, bon, c'est clairement que l'agenda qui est mis en avant depuis le début de cette année, c'est l'agenda de la santé, de la protection sociale, de l'État protecteur qui gèle l'économie, qui garantit le chômage technique ou voire les emplois. Alors que le fonds de commerce du national-populisme était précisément de jouer sur cette fracture croissante entre les citoyens et les gouvernants. Avec un agenda identitaire, hein, essayer de désigner des boucs émissaires, à commencer par les immigrés. Or, en plus, pour faire face à la pandémie, les gouvernements dirigés par des partis traditionnels doivent fermer les frontières, doivent prendre des décisions nationalistes pour pouvoir s'approvisionner en masques, en traitements, en vaccins. Donc, le facteur défavorable pour le national-populisme, c'est clairement que leur fonds de commerce a, en quelque sorte, été confisqué par les gouvernements et les partis traditionnels. Mais à court terme, puisque évidemment il va falloir gérer ensuite l'impact économique et social de cette pandémie.
Oui, parce que justement, là, si l'urgence sanitaire va passer, la réalité économique va ouvrir sans doute la voie au national-populisme avec justement des inégalités qui vont s'installer.
Voilà, ça c'est évidemment les facteurs favorables au retour du national-populisme. Hein, la pandémie et la crise économique et sociale exacerbent les inégalités, l'insécurité économique et sociale. L'État ne va pas pouvoir, ad vitam aeternam, geler l'économie, donc on risque à partir de 2021 de connaître des faillites, du chômage de masse, voire des crises bancaires, et donc de voir cette fracture entre citoyens et politiques revenir de plus belle. Et le facteur favorable aussi au national-populisme, c'est un peu cette société de défiance que l'on constate évidemment déjà cette année, avec par exemple tous les épisodes des masques, ou les gouvernements disaient que les masques n'étaient pas nécessaires parce qu'en fait, ils n'en avaient pas à disposition pour les citoyens. Le manque de transparence sur le prix des vaccins. Donc, on voit que les thèses complotistes pullulent sur les réseaux sociaux. Et là, c'est évidemment un terreau propice au national-populisme qui surfe sur cette insécurité
économique.
Mais
ils n'en ont pas profité, alors. Entre guillemets.
Donc ils n'en ont pas profité, comme je le disais, il faut être nuancé. Bon, Trump a perdu les élections, mais il a eu plus de voix que 4 ans avant.
Il y a beaucoup de monde encore qui admettent les thèses, justement, d'avoir une triche dans les élections aussi.
Oui, tout à fait. Donc mais disons que l'enjeu va se jouer sans doute en 2021-2022, comment on va gérer l'impact économique et social de cette pandémie. Est-ce qu'on va revenir dans le contexte d'inégalités croissantes, d'insécurité économique et financière, des politiques d'austérité, donc là qui vont clairement faire le lit du national-populisme, et surtout dans des pays, donc il faut voir en Italie par exemple, qui est fortement touché, donc il y a aussi des pays qui sont évidemment plus concernés que d'autres, mais il y a aussi une opportunité, c'est d'utiliser justement cette crise qui va nécessiter des investissements publics très importants pour reconstruire l'économie sur des bases plus justes, plus durables, et qui pourraient donc résorber ce fossé entre gouvernants et gouvernés en garantissant une prospérité soutenable et partagée, en garantissant une sécurité sociale. Donc est-ce qu'on va vers un système qui va être centré de manière durable sur la santé, sur la protection sociale, sur cet État protecteur des citoyens, ou est-ce qu'au contraire on va retomber dans les travers du passé, rappelons-nous, après la crise des subprimes, c'est 2 ans après que les politiques d'austérité sont arrivés et que les problèmes démocratiques et que la montée du national-populisme est arrivée. Donc, il ne faut certainement pas crier victoire. Il faut être très très vigilant et tirer les leçons des erreurs du passé hein, pour ne pas retomber dans cette logique austéritaire et inégalitaire, mais au contraire mettre en avant ces enjeux de protection sociale, de justice fiscale, de respect de l'environnement au service de la santé.
Oui, donc il ne faut pas non plus dire que finalement, que ce soit les deux options, il y en a une où le national-populisme va pouvoir quand même plus rentrer dans la brèche, si je vous comprends.
Oui, et même si c'est une pandémie qui est par définition mondiale, une récession qui est mondiale, évidemment les différents gouvernements doivent gérer cette pandémie et cette récession, et donc on va avoir des réponses et des succès ou différents d'un pays à l'autre. Donc le risque, évidemment, c'est de voir dans certains pays la démocratie qui sort gagnante, mais dans d'autres, au contraire, le retour d'une montée du national-populisme, voire de nouveau des gouvernements, y compris en Europe, qui en tirerait les avantages. Bon, ici en Belgique, on voit bien que dans les sondages, en 2020, le Vlaams Belang n'a pas baissé, donc c'est y compris un problème pour notre pays.
Oui, parce qu'il y a aussi tout le problème de la restriction des libertés, évidemment, aussi pendant cette crise. On l'évoque même maintenant avec ces vacances et ces retours de vacances. Ça peut être aussi un lit pour le national-populisme.
Oui, bon, là, c'est comme je disais, c'est un peu leur agenda qui est confisqué à court terme. Mais bon, le risque aussi, c'est que des gouvernements plus traditionnels prennent goût, en quelque sorte, à ces mesures un peu autoritaires qu'on est obligé de prendre face à la pandémie. Et donc là, bon, ça serait un autre type de problème, c'est-à-dire que l'agenda national-populiste serait, en quelque sorte, en partie adopté par des gouvernements dirigés par des partis traditionnels. Donc, ça serait évidemment pas une réponse valable pour pouvoir venir à bout de l'agenda national-populiste.
Est-ce que vous pensez que justement en 2021, l'État protecteur que vous évoquiez va encore être maintenu malgré tout et malgré justement cette crise qui va quand même encore se poursuivre?
Je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, l'impact social de la crise, on ne l'a pas encore connu, surtout dans nos pays où on a des systèmes de protection sociale, le chômage technique qui permet quand même de colmater les brèches, mais on voit bien que les dettes augmentent et donc on ne va pas pouvoir maintenir ces dispositifs de manière indéfinie. Et donc la question est de savoir, une fois que ces aides d'État vont disparaître, on s'attend à des faillites, à du chômage de masse, à des crises bancaires, puisque les mauvaises créances vont s'accumuler dans les bilans des banques. Et donc là, comment les gouvernements vont gérer cet aspect économique et social de cette crise du coronavirus.
Et ce qui est mondial aussi, évidemment. Hein.
Qui est mondial, évidemment. Mais comme je le disais, bon, c'est une crise mondiale, mais qui est perçue de manière spécifique dans chacun des pays, avec des spécificités aussi en matière de forces politiques qui existent ou pas, y compris d'ailleurs dans notre pays, entre le nord et le sud du pays, on a une offre politique qui diffère.
Merci Arnaud Zaccari d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous avez écrit donc cet ouvrage « Mondialisation et national-populisme, la nouvelle grande transformation » et c'est paru aux éditions La Muette. Il est 7h20.